Et on continuait de voir comment Descartes voit le problème de l'existence de Dieu. J'insiste un peu parce que je crois que pour nous c'est quand même très important, d'une manière, si vous voulez, de considérer ce grand tournant dans la pensée philosophique. Évidemment, Descartes n'est pas au sens absolu une source. Bien, c'est une source empoisonnée, si vous voulez, n'est-ce pas ? Mais il est, au point de vue de notre monde occidental, sûrement très important. Alors, il faut essayer de comprendre. Et le problème de l'exister de Dieu est pour Descartes sûrement un des sommets de sa pensée. Je vous ai rappelé au point de départ, si vous vous souvenez bien, dans les méditations, Descartes dit que toute la philosophie n'a pas d'autre sens que de regarder le problème de l'âme immortelle et le problème de Dieu. Il le dit explicitement. Et donc, c'est important de voir comment le premier moment où notre philosophie occidentale veut retrouver son autonomie par rapport à la pensée des théologiens, puisque jusque-là elle est gardée par les théologiens, comment cette pensée va de fait se décrocher de la théologie en voulant laïciser la foi. Très très curieux. Là il y aurait un problème très intéressant à voir. Comment Descartes n'arrive pas à saisir vraiment ce que c'est que l'intelligence humaine. La raison, oui. La raison, il la décroche. Du reste facile, puisqu'elle n'a jamais accroché. Alors, c'est facile. La raison n'a jamais été transformée par la foi. La foi ne nous donne pas une méthode de raisonner. La foi ne change rien à notre raisonnement logique. Mais la foi transforme notre jugement d'existence. Et c'est là où est la difficulté. Comment, de fait, le jugement d'existence est transformé par la foi et comment on peut redécouvrir le jugement d'existence et l'appréhension. Or, de fait, cette laïcisation de la foi chez Descartes, et je dis bien laïcisation de la foi parce qu'on va essayer de garder ce regard immédiat sur Dieu. C'est la foi qui nous permet de dire que notre intelligence est premièrement ordonnée vers Dieu. Et par la foi, mon intelligence est ordonnée immédiatement vers Dieu. Elle est en relation transcendantale vers Dieu, comme on dirait selon un langage scolastique. Elle est en relation transcendantale vers Dieu, c'est-à-dire que mon intelligence ne peut pas se définir en dehors de Dieu lorsqu'il s'agit de la foi. Mais mon intelligence humaine se définit indépendamment de l'existence de Dieu, puisque c'est l'être. Primo cadit in intellectus, ens. Saint-Thomas ne dit pas Dieu, il dit ens. Primo cadit. Alors, primo cadit in intellectus, chez Descartes. L'intelligence de Descartes, qu'est-ce qui tombe dedans ? Alors vous allez dire, ah, c'est l'infini. L'idée d'infini. Oui, mais l'idée d'infini liée à celle de Dieu. L'idée d'infini qui ne peut pas se séparer de Dieu. Donc on peut dire que d'une certaine manière, primo cadit in intellectus, c'est vraiment l'exister de Dieu. Mais il serait plus juste de dire l'infini. Et l'infini qui, dans la perspective de Descartes, l'infini qui implique Dieu. Et il y a un petit peu, ça ce serait très curieux et intéressant à voir, cogito ergo sum. Alors il faut bien comprendre, hein, vous savez bien, vous avez déjà vu ça, Ergo sum. Que veut dire ça? Eh bien, alors faites un tout petit peu ça. L'infini, ergo. Alors, c'est pas sum, c'est Deo. Il y a un petit peu ça. Vous voyez? Le cogito contient l'infini. Et le cogito me fait passer à sum. Ce n'est pas un raisonnement. Vous savez bien, ce n'est pas un véritable raisonnement. Cogito ergo sum. C'est le cogito qui implique une substance pensante. Hein, c'est ce que dira Descartes. La substance pensante. La substance, c'est l'exister. Hein? Alors, le cogito chez Descartes est directement lié à la substance pensante. C'est pas un passage de la pensée. La pensée, nous sommes dans l'ordre de l'intentionnalité. Je donne ça pour que vous compreniez mieux. L'intentionnalité. Le cogito, c'est de l'intentionnalité. C'est pas parce que je pense quelque chose que ça existe. Il y a des gens qui croient parce qu'ils pensent que ça existe. Non, ils sont cartésiens. Cartésiens, c'est ça. C'est là, on voit le petit défaut de Descartes. Il cogite, donc ça existe. Il n'y a qu'à ouvrir, ça y est. Abraham peut penser à la très sainte Trinité, elle est là présente. Ça coule dans la foi. Vous voyez la laïcisation de la foi, ce beau texte de la Genèse qu'on voyait hier. Ils lèvent les yeux, ils sont trois. Mais ils pensaient à la très sainte Trinité, je veux dire. Ils pensaient à Dieu, puis ils voient les trois. Au point de vue de la foi, c'est vrai. Quand je crois, Dieu est présent. L'intentionnalité du cogito n'est pas la même que l'intentionnalité de la foi. Et c'est ça que j'appelle laïcisation de la foi. Vous comprenez bien. Et ça, c'est important de saisir ça. Parce que c'est de comprendre comment le cogito est de l'ordre de l'intentionnalité. Il est de l'ordre de l'intentionnalité, le cogito. Et alors, ce cogito de l'intentionnalité va tout de suite impliquer la substance. La substance n'est plus de l'ordre de l'intentionnalité. Elle est de l'ordre de l'exister. Ergo sum. Le cogito ergo sum, c'est la substance du impliquée dans le cogito qui permet d'y ergo sum. J'espère que vous voyez l'intentionnalité qui passe dans le domaine de l'ontologie. Ce qu'on appellera le domaine de l'ontologie. Le domaine de l'ontologie, c'est à partir de ici. Hein. Bon. Tout le monde est d'accord que la substance est de l'ordre de l'ontologie, c'est pas de l'ordre de l'intentionnalité. C'est le passage entre les deux. Donc, on va passer d'intentionnalité à l'ontologie en disant l'intentionnalité implique l'ontologie. Eh bien, ça, c'est proprement l'erreur de l'ontologie. Vous voyez bien que toute l'erreur de l'ontologie est présente dans Descartes. Si elle n'est pas explicitée de façon absolue, elle est présente dans Descartes. Parce que c'est le passage de l'intentionnalité à l'ontologie qui implique ergo sum. Alors quand je dis cogito ergo sum, on pourrait dire à la rigueur, ce n'est pas tout à fait, parce que le ergo, voyez, cache quelque chose. Cogito sum. Cogito, substance pensante, sum. Alors, l'infini, je suis dans l'ordre de l'intentionnalité, puisque c'est une idée d'infini. Cet infini implique Dieu. Nous avons vu, c'est toutes les argumentations que Descartes a données avant. En disant que l'infini, il faut bien qu'il ait une cause de cette idée d'infini. Or, la cause de l'idée d'infini, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas en moi, parce que je ne suis pas infini. Je ne suis pas infini dans ma substance. Alors, il faut donc nécessairement poser Dieu. Et comme c'est cru, le cogito est relié par l'infini à Dieu, le cogito est relié par son intentionnalité à la substance. Et comment le cogito fait le lien entre les deux? Par le point de vue de l'idée d'infini, quand j'ai l'idée d'infini, j'explicite l'intentionnalité. L'idée d'infini, il implique Dieu. Par un principe, passage, ergo, ergo. Dieu existe. Et qu'est-ce qu'il va mettre comme métaxu pour dire que Dieu existe? Le principe de causalité. Transposé au niveau, non pas de l'existe, transposé au niveau de l'intentionnalité. Cette idée de perfection, il faut nécessairement quelle est sa source, qu'il y ait un principe de cette idée d'infini. Et donc, il faut que ce soit Dieu. Là, il faut réfléchir là-dessus, parce que c'est le tournant de toute la pensée occidentale. Et c'est ça qui est source de l'athéisme contemporain. Quand vous voyez Feuerbach, c'est sur l'infini. Alors ça, c'est très important de voir comment cette notion d'infini introduite à l'intérieur du cogito, cette notion d'infini introduite à l'intérieur du cogito, va de fait être la tournante par laquelle ou je mets Dieu immédiatement dans mon intelligence, ou je dis pas du tout, c'est impossible, ça ne veut pas, et je refuse Dieu. Et c'est le même métaxu qui sert à Descartes pour prouver l'existence de Dieu, et qui sert à Feuerbach pour dire que Dieu n'existe pas. Donc ils sont l'un et l'autre dans le même contraire. Ils sont l'un et l'autre contraires, ils ont donc le même genre. Oui. Mais t'es en opposition, c'est important de saisir ça. Parce que c'est par là qu'on saisit comment l'ontologisme est source de l'athéisme. Et comment l'athéisme contemporain, si je veux y répondre, ce n'est pas en revenant à Descartes. C'est en allant beaucoup plus loin, c'est-à-dire en découvrir l'erreur commune de Descartes et de Feuerbach, qui tous les deux sont du côté de l'infini, du côté de l'intentionnalité, qui ne fait qu'un avec le point de vue de l'être. L'intentionnalité égale le point de vue substantiel. Dans l'ontologisme comme dans l'athéisme. Des deux côtés, on trouve la même erreur. C'est de faire que l'aspect de l'intentionnalité et l'aspect du réel ne sont plus distingués. J'espère qu'à partir de là, vous voyez l'importance de revenir à une métaphysique réaliste, et c'est le seul moyen de pouvoir saisir comment ces deux contraires sont dans le même genre. Alors, ce serait intéressant de voir que de fait, cette erreur, cette exaltation de l'infini provient, non pas en cause directe, hein, provient du fait que saint Thomas est le premier à considérer que l'infini est une manière d'être de Dieu. Avant saint Thomas, l'infini n'est pas une manière d'être immédiate de Dieu. L'infini est considéré comme qualifiant la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, la toute-puissance de Dieu, mais pas une manière d'être. Ce que saint Thomas fait, c'est très beau, il le fait en théologien, et il a raison de le faire au niveau de la théologie. Mais les autres laïcisent cela et transposent cette manière d'être infinie que saint Thomas saisit au niveau de Dieu, il en transpose dans l'intelligence humaine. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une des choses qui m'impressionne beaucoup quand on essaie de comprendre l'histoire de la pensée occidentale. On voit que cette notion d'infini joue un rôle capital et que si je ne regarde pas cette notion d'infini, je ne comprends rien. C'est cette notion d'infini. Alors c'est là où on voit comment que Apollinaire dit à propos de Hegel, que c'est la notion d'infini qui est l'âme de toute la dialectique, que c'est ça qui nous fait saisir ce que c'est que la dialectique. Je crois qu'il a raison, que c'est cette notion d'infini qui, avant, chez saint Thomas, avec Descartes, avec Hegel, avec Feuerbach, va jouer ce rôle capital. Si quelqu'un d'entre vous s'intéresse à ça, il y aurait une très belle thèse à faire là-dessus. La notion d'infini dans notre philosophie occidentale. Ce serait une chose très importante et intéressante à faire parce que je crois que c'est la plaque tournante. Alors continuons, après ce rappel, pour vous remettre un peu en acte dans Descartes, n'est-ce pas ? Nous étions arrivés donc à cette dernière précision de Descartes. C'est dans la troisième méditation que Descartes va développer ce qu'il considère comme son principal argument pour prouver l'existence de Dieu. Et cela sans avoir recours à aucune comparaison tirée des réalités corporelles. Alors ça c'est très intéressant, la vieille nostalgie de saint Anselme que nous retrouvons chez Descartes. Pouvoir découvrir l'existence de Dieu sans partir d'une expérience, d'une réalité contingente. Oui, il faut bien comprendre ça, parce que ça c'est la nostalgie que nous possédons en nous. Nous voulons être des anges. Les anges peuvent le faire, mais pas nous. Alors évidemment, Descartes ne pense pas aux anges, mais c'est quand même, il est à la suite des théologiens. Les théologiens pensent aux anges. De bons théologiens pensent aux anges. N'est-ce pas ? À la place d'avoir des distractions, ils pensent aux anges. Tandis que ceux qui sont des mauvais théologiens ne pensent plus aux anges. Et Descartes ne pense plus aux anges. C'est bien évident, mais il fait exactement la même chose. Vous voyez, sa première preuve d'existence de Dieu partait de l'idée d'infini. Donc l'idée d'infini, elle est dans son cogito. Donc elle est parmi les réalités que nous constatons, expérience interne. Si je réfléchis beaucoup, je vois que je possède en moi l'idée d'infini. Hein? Je réfléchis beaucoup. 8 jours de méditation, bien corsé, hein? 8 jours de méditation bien corsé, au bout d'un certain temps, je dis oui, l'idée d'infini, je possède cette idée d'infini, ça y est. C'est ça. Bon. Et alors, à partir de là, je prouve l'existence de Dieu. Cogito, faut presser, hein. C'est pas sur le citron, cogito, que là, il est l'infini. C'est ça. Et Dieu, au terme. Vous voyez que ça, c'est très ennuyeux. Parce qu'on est obligé encore de se servir de la causalité. C'est la chose la plus ennuyeuse. Si on pouvait prouver l'existence de Dieu sans la causalité liée, ce serait merveilleux. Parce qu'il n'y aurait plus aucun objectant. La difficulté, c'est le principe de causalité. La difficulté, c'est le principe de causalité au niveau final, au point de vue de la finalité. C'est ça la difficulté. Si on pouvait immédiatement lire l'existence de Dieu dans la réalité, on dirait, mais ça y est, c'est merveilleux. Je sauve Dieu parce que je le vois sans la causalité. Et si Dieu n'était pas créateur, ce serait bien plus facile de prouver qu'il existe. Hein. Au fond, ça revient à ça, c'est très bien. Si Dieu n'était pas créateur, il serait posé la question. Et Dieu ne peut être que créateur. S'il existe, il ne peut être que créateur. Et toutes les traditions religieuses me montrent. Or, s'il est créateur, je ne peux le rejoindre que par la causalité. Impossible autrement. Si je mets entre parenthèses le créateur, je pourrais mettre entre parenthèses la causalité. Et alors je verrai Dieu dans un miroir. Immédiatement. Je n'aurais pas besoin de principe de causalité. Ça, c'est important de dire ça. C'est que l'ontologisme veut, désire, remonter jusqu'à Dieu sans principe de causalité. Et Descartes nous montre. C'est ça qui est intéressant à voir. Descartes nous montre. Là, il maintient le principe de causalité au niveau de l'intentionnalité, que nous avons dit la dernière fois. Et que par le fait même qu'il transpose le principe de causalité au niveau de l'intentionnalité, il prépare Kant. Tout est prêt pour Kant. Kant n'a rien inventé. Tout est prêt. Mais Descartes comprend bien que c'est très ennuyeux. Parce qu'il a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant dans sa tête, c'est une démonstration géométrique. La démonstration a priori. On n'est plus obligé de passer par les effets pour remonter par une démonstration a posteriori. On pourrait lire immédiatement. Il y aurait une lecture directe. Tellement vrai. Je vous vois, donc je vois Dieu. Mais c'est vrai, c'est ça au fond qu'on a comme nostalgie. Hein. Vous voudrez voir l'ombre de Dieu. Vous voyez ? L'ombre de Dieu dans les réalité que je vois, non majestueuse, extraordinaire, mais je verrai l'ombre. Alors si je vois l'ombre, il n'y a plus besoin de raisonnement. Hein. Quand vous voyez de la fumée, vous dites que le feu existe, vous ne faites pas beaucoup de raisonnement. Quand vous voyez l'ombre, ben vous dites oui, ça y est, découvrez l'ombre de Dieu. Alors c'est dans la troisième méditation que Descartes va développer ce qu'il considère comme son principal argument pour prouver l'existence de Dieu. Et cela sans avoir recours à aucune comparaison tirée des réalités corporelles, afin d'aider le lecteur à s'abstraire le plus possible des sens. Les sens, c'est tellement gênant hein, pour le philosophe, tellement effrayant. Alors, il faut s'en séparer le plus qu'on peut. Si on pouvait s'en séparer complètement, ça irait très bien. Pas ? Donc, c'est la troisième méditation, chapitre 7e. Puisqu'il a été reconnu précédemment que tout ce que l'on sent ou imagine n'est peut-être rien en dehors de celui qui sent ou imagine. Oui, alors, c'est curieux au point de vue de l'intentionnalité. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça correspond. Au point de vue de l'intentionnalité, cette nostalgie. Cette nostalgie, c'est une nostalgie. Hein, la nostalgie de l'Éden. Quant aux réalités arithmétiques ou géométriques, la seule raison que Descartes aurait d'en douter serait qu'un dieu lui ait donné une nature telle qu'il se trompa même dans les choses les plus manifestes. Les réalités mathématiques, même Descartes, hein, il dit qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Des potentia absoluta. Dieu pourrait faire un triangle qui n'est pas... C'est la somme de ses angles égale à deux droits. Il pourrait faire ça. C'est quand même très ennuyeux. Mais qu'est-ce que c'est ? Tout trouble, vous voyez ? Rien n'est impossible à Dieu. Descartes connaît quand même cette phrase de l'Écriture. Hein ? Puis connaît en calme par ses suarésiens. La toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu fait que tout tremblement apocalyptique, tout peut être changé. Rien, absolument n'est évident. C'est afin de pouvoir éliminer tout à fait cette raison de douter que Descartes doit examiner s'il y a un Dieu sitôt que l'occasion s'en présentera. Oui, le gendarme pour la certitude, c'est Dieu. Si je prouve que Dieu existe, n'est-ce pas, si j'arrive à prouver ça, je prouverai qu'il ne peut plus y avoir de tremblement apocalyptique dans l'ordre mathématique. Parce que Dieu ne veut pas me tromper. Alors si Dieu ne veut pas me tromper, donc je peux m'arrêter là ça. Pas de pierre où reposer ma tête. Hein, on rejoint toutes ces idées-là. C'est afin de pouvoir éliminer tout à fait cette raison de douter que Descartes doit examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en présentera. Et au cas où Dieu existe, examiner s'il peut être trompeur. La qualité de Dieu, si Dieu existe, ne peut pas me tromper. Donc s'il ne peut pas me tromper, ah, très bien. Alors à ce moment-là, je me repose. Car sans la connaissance de ces deux vérités, aucune certitude ne sera possible. Sans la connaissance de ces deux vérités, Dieu existe et Dieu ne peut pas me tromper. Vous voyez comme c'est apologétique, hein, et comme c'est au fond peu contemplatif. Parce que poser Dieu comme le garant de la vérité, celui qui enlève tous les doutes, c'est pas Dieu. Absolument pas, on comprend très bien Pascal. Le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est pas le Dieu de l'amour, c'est pas le Dieu de la miséricorde. C'est le Dieu dont je me sers immédiatement. Et je me sers immédiatement de lui parce que grâce à lui, alors j'aurai la certitude. Je pourrai dormir sur mes deux oreilles. Suivant l'ordre qu'il s'est fixé, Descartes va diviser ses pensées en trois genres. Là, pour ceux qui veulent étudier Descartes, c'est un lieu très très important. Ce que je vous ai dit toujours, la division, pour le point de vue critique, hein, la division, quand vous étudiez un auteur, un philosophe, regardez la manière dont il divise. C'est le petit secret, c'est le petit passe-partout. Dévoyez la manière, comme une cuisinière, la manière dont elle divise le poulet. Vous verrez tout de suite si c'est une vraie cuisinière ou bien si elle est liée à ce moment-là au sécateur qui coupe. Ça va plus vite, l'efficacité. Va diviser ses pensées en trois genres, idée, volonté ou affection et jugement. Tout est là. Alors ceux qui sont un tout petit peu habitués à la critique aristotélicienne, ça voit très bien qu'on ne divise pas de cette manière-là nos pensées. Appréhension, jugement. Hein, c'est comme ça que nous faisons. C'est-à-dire, nous voyons raisonnement. Je dis ça pour que vous compreniez, toute la critique repose là-dessus. Raisonnement, jugement. Première division. Puis jugement, nous voyons que le jugement ne peut pas être ce qui est le plus simple, opposé à l'appréhension. Donc on remonte du jugement à l'appréhension. Et puis on comprend que tout ce qui est de l'ordre de la connaissance n'est pas de l'ordre de la volonté et de l'affectivité. Donc on distingue très nettement l'intentionnalité au niveau de la connaissance et l'intentionnalité du côté affectif. Ça, c'est élémentaire. Élémentaire au point de vue critique. C'est très important de bien comprendre ça. Alors, voyez Descartes, mettez en parallèle Descartes. C'est intéressant à voir. C'est toujours intéressant pour mieux saisir la vérité. Alors, Descartes va lui mettre le point de vue idée, c'est l'appréhension. Et voyez, il ne passe pas par le jugement, hein. C'est très intéressant. Idée, volonté. Ou affectivité, cette volonté ou affectivité, et le point de vue du jugement envers les lieux. Donc, je passe par la volonté pour le jugement. Et les idées, c'est le domaine purement de l'intelligibilité. Il n'y a plus que les idées. Alors ça, c'est le passage très curieux, ça, c'est le succès d'année de la scolastique. C'est la laïcisation de la foi qui fait que les idées vont primer. Là, par le point de vue de la volonté, je m'applique au réel, et par là, j'aurai le jugement. Bien. Où placer le jugement d'existence? Posez-vous la question. Où placer le jugement d'existence? Bon. Si je prends raisonnement et jugement, je comprends, les jugements sont antérieurs au raisonnement. Et qu'il peut y avoir un jugement qui me relie directement au réel. Ce jugement présuppose des appréhensions, très bien, ça c'est ma manière de connaître, c'est mon conditionnement. Mais c'est le jugement qui est la connaissance parfaite. Ce n'est pas l'appréhension. L'appréhension est élémentaire. Je fais de l'élémentaire le point de départ. Et donc je reste intense. L'infantilité de Descartes, elle est là. Il prend ses idées pour la réalité. C'est l'infantilité, ça. Le gosse a le droit de faire ça jusque je ne sais pas quel âge. L'âge de raison, n'est-ce pas? Oui, il prend ses idées pour la réalité. Mais regarde un peu, mon petit, tu verras bien que tes idées n'est pas la réalité. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Descartes a pris les idées pour la réalité. C'est l'infantilité. Et depuis Descartes, on reste à cette infantilité. Attends, les intellectuels sont des pauvres types. Hein. Ils prennent les idées pour la réalité. C'est ça. Ils vivent dans leur monde comme ça. Ils croient contempler. Pas du tout. Contempler mon bruit. C'est la seule réalité. C'est évident, parce que c'est cogito ergo sum. Vous voyez, c'est le ergo sum. Ça, c'est on tourne autour de soi. Et on reste enfermé en soi. C'est vraiment c'est extraordinaire, mais tout est contenu là-dedans. Voyez, une fois qu'on a compris ça, on voit tout, après ça continue. Et on n'en est pas sorti. On reste lié à ça, on reste lié à cette conception qui fait que, de fait, la première division des pensées en trois genres, idée, volonté, ou affection et jugement, afin de voir où il y a proprement vérité ou erreur. Il montre alors que l'erreur ne peut se trouver que dans le jugement. Ça, c'est du restant scolastique. Et qu'elle consiste principalement en ce que je juge que les idées qui sont en moi sont conformes à des réalités hors de moi. C'est évident que c'est ça. Et c'est dans le jugement. Or, parmi ces idées qui sont en moi, certaines semblent provenir de réalités existant hors de moi. Je dois donc considérer quelles raisons m'obligent à estimer ces idées semblables à ces réalités. Autrement dit, Je dois chercher si, parmi les réalités dont les idées sont en moi, il y en est qui existent hors de moi. Si je considère ces idées, non pas en elles-mêmes, comme des modes de ma pensée, mais en tant qu'elles représentent des réalités. Alors, je vous signale tout de suite, hein, le mot « idée » et « représentation », ce n'est plus la signification. Confusion entre « idée » et « image ». Dans le langage précis, hein, parce que c'est dit. Mais en tant qu'elles représentent des réalités, je constate que ces idées diffèrent grandement entre elles, car certaines, celles qui représentent des substances, contiennent sans aucun doute plus de réalité objective que celles la signification. Confusion entre idée et image. Dans le langage précis, hein, parce que c'est dit. Mais en tant qu'elles représentent des réalités, je constate que ces idées diffèrent grandement entre elles, car certaines, celles qui représentent des substances, contiennent sans aucun doute plus de réalité objective que celles qui ne représentent que des modes ou des accidents. C'est bien évident. Parmi les idées, il y a la substance. La substance représente plus de réalité que uniquement un accident. De plus, celle par laquelle je conçois un Dieu éternel, infini, etc., a certainement en soi plus de réalité objective que celle par laquelle me sont représentées les substances finies. Vous voyez, c'est une chose très extraordinaire. Le plus et le moins de l'objectivité. Et continue dans l'idée. Parmi les idées, il y a des idées qui expriment la substance. Parmi les idées, il y a des idées qui expriment les idées d'infini. Et Dieu est compris dedans. Donc les idées ont beaucoup plus d'objectivité que les autres. Et au nom de quoi ? Au fond, l'idée reste une idée. Elle reste de l'ordre de l'intentionnalité. Comment, à l'intérieur de l'intentionnalité, je vais montrer, vous voyez, une proximité plus ou moins grande de la réalité. Et c'est là où on voit très bien qu'il y a une pétition de principe. Parce qu'il a dit précédemment, hein, l'erreur et la vérité, c'est à partir du jugement. Le jugement, c'est la conformité de l'idée avec la réalité. Classique, hein. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? L'adéquation de l'intelligence et du réel. Alors on va traduire l'adéquation de l'idée et du réel. Jusque-là encore, on pourrait s'en tirer. Mais quand il va plus loin, il va essayer de comprendre comment les idées, on peut les considérer de deux manières. On peut considérer les idées par rapport au sujet qui pense, on peut les considérer selon leur valeur de représentation objective. Et selon la représentation objective, je les considère comme plus ou moins proches du réel. Alors que de fait, elles restent dans l'ordre de l'intentionnalité. Or, il est manifeste qu'il doit y avoir au moins autant de réalité dans la cause efficiente et totale que dans son effet. Alors, voyez encore, c'est intéressant de voir comment Descartes conçoit la causalité, hein. Je vous dis, c'est un tournant. Alors, Or, il est manifeste qu'il doit y avoir au moins autant de réalité dans la cause efficiente que dans son effet. Le plus parfait ne peut provenir de ce qui est moins parfait. Le principe, souligne Descartes, est vrai aussi bien des effets où l'on ne considère qu'une réalité objective ou par représentation, que des effets dont la réalité est actuelle ou formelle. Si la pierre qui, auparavant, n'a pas été, ne peut commencer d'être que si elle est produite par une réalité en laquelle est formellement ou éminemment tout ce qui est dans la pierre, et si la chaleur ne peut être produite dans un sujet qui auparavant n'était pas chaud, que par une réalité qui soit d'un ordre au moins aussi parfait que la chaleur, de même l'idée de chaleur, vous voyez le passage, hein? De même l'idée de chaleur ou de la pierre ne peut être en moi que si elle y a été mise par une cause qui est en elle au moins autant de réalité formelle que je conçois qu'il y ait de réalité objective dans la chaleur ou la pierre. C'est remarquable comme confusion. Comment le principe de causalité efficiente ou formelle, peu importe, va être transposé du côté de la réalité et du côté de l'intentionnalité. Certes, une idée peut naître d'une autre idée. Cependant, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des idées. Mais de nouveau, on récupère. Hein? On récupère, on ne peut pas remonter à l'infini. Certes, une idée peut naître d'une autre idée. Cependant, on ne peut pas remonter ainsi à l'infini. Mais il faut en arriver à une première idée dont la cause soit comme archétype, en laquelle est contenue formellement toute la réalité qui n'est dans l'idée qu'objectivement. La réalité est objectivement dans l'idée. Et si j'ai justement une idée première, il faut nécessairement arriver à quelque chose de premier qui soit adéquat à la réalité. Que conclure de tout cela ? Que si la réalité objective d'une de mes idées est telle que je sois certain qu'elle n'existe en moi ni formellement ni éminemment, et que par conséquent je ne puis être moi-même la cause de cette idée, il s'ensuit nécessairement que je ne suis pas seul au monde, mais qu'il existe une autre réalité qui est la cause de cette idée. Il a oublié de regarder son voisin. Extraordinaire, il doit arriver à prouver qu'il n'est pas seul au monde, il doit arriver à réfléchir sur ses idées d'une manière telle qu'il ne peut pas être cause de ses idées. Très curieux ça. Donc il faut nécessairement qu'il y ait une cause de ses idées. Et cette cause de ses idées, c'est justement quelque chose qui est avant, en lequel est contenue formellement toute la réalité qui n'est que dans l'idée qu'objectivement. Or, parmi mes idées, il y en a une qui représente Dieu. Je fais l'inventaire. Il y en a une qui représente Dieu, l'archétype, l'idée première. Pour Kant, ce sera l'être. Il y aura le même raisonnement, hein, vous trouverez exactement la même chose. Il y a une idée archétype qui est l'être. Or, parmi mes idées, il y en a une qui représente Dieu, c'est-à-dire une substance infinie, éternelle, immuable, souverainement intelligente et puissante, et par laquelle moi-même, ainsi que toute autre chose qui existe, si toutefois il existe quelque chose d'autre que moi-même, avons été créés. Or, cela, je ne puis l'avoir tiré de moi-même. C'est pourquoi, en raison de ce qui a été dit précédemment, il faut nécessairement conclure que Dieu existe. Alors, vous voyez, comment je demeure dans l'ordre des idées pour prouver que Dieu existe. C'est ça que Kant a saisi avec force et a dit, c'est impossible, vous ne pouvez pas, à partir d'une idée, prouver l'existence de Dieu. Il a raison dans sa critique. C'est intéressant de voir comment Descartes arrive à cela, vous voyez, pour arriver que par l'idée, et comment par l'appréhension, le passage entre les deux, comment par l'idée, quand je réfléchis, le plus et le moins, tout est là. Le plus et le moins, j'introduis dans l'idée du plus et du moins, j'introduis donc nécessairement une première idée qui est absolument archétype. Cette première idée, peut-être que la substance infinie d'un être. Et cette substance infinie d'un être, donc, c'est Dieu. Je ne puis avoir l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, que si cette idée me vient d'une substance qui elle-même est véritablement infinie. Car si l'idée de substance est en moi, du fait même que je suis une substance, je ne puis avoir l'idée d'une substance infinie que si cette idée me vient d'une substance qui elle-même est véritablement infinie. J'ai l'idée d'une substance, j'ai l'idée d'infini. Je peux lier les deux. Donc j'ai l'idée d'une substance infinie. Et l'idée d'une substance infinie ne peut pas provenir de moi, ça ne peut provenir que de Dieu. Mais comment on arrive à cette espèce de réflexion très curieuse dans une immanence complète de l'idée? Cet infini, Descartes précise aussitôt qu'il le conçoit par une véritable idée et non pas seulement par la négation du fini. Ça, c'est l'objection qu'on lui fera. Mais au fond, votre idée d'infini, c'est tout simplement la négation du fini. Ah, pas du tout. Pas du tout. L'infini est avant le fini. L'infini est avant le fini, pour lui. Cet infini, Descartes précise aussitôt qu'il le conçoit par une véritable idée, et non pas seulement par la négation du fini, comme on comprend le repos par la négation du mouvement. Et que cette idée d'infini, ou de Dieu, est en lui avant celle du fini. Donc, l'idée première sur laquelle tout repose, c'est cette idée d'infini, de substance infinie. Je crois que ça, nous voyons bien, à ce point de vue-là, ce que représente cet effort. C'est intéressant à saisir. Après, il faut se demander si c'est réel ou pas. Mais au fond, c'est intéressant à saisir. Il y a quand même un effort très curieux, d'une méditation très poussée, très différente de cette enseigne. Vous comprenez, cette enseigne, c'était sur l'idée de Dieu. Hein. C'était sur la signification du mot Dieu. Donc, il ne quittait pas la foi. Tandis que Descartes quitte la foi. Il est dans l'idée qu'il entend, dans l'entendement. Ce qui vient d'être prouvé est manifeste, estime Descartes, si l'on y pense attentivement. Là, le vieux stoïcien. Si vous poussez jusqu'au bout votre réflexion, ça deviendra manifeste. Pas pour les novices, pas s'échauffer. Mais, si vous faites grande attention, au bout d'un certain temps, ça deviendra manifeste. Alors à ce moment-là, vous confondrez le réel et l'intentionnel. Et le but du noviciat cartésien. Mais, et ça, c'est le stoïcisme poussé à l'extrême. Hein. Poussé, chauffé, ça arrivera à ça. Alors à ce moment-là, vous arriverez à faire que vous ne verrez plus la distinction entre l'intentionnalité et le réel. C'est-à-dire, vous perdrez la tête. Mais il arrive que par suite d'un relâchement de l'attention, l'esprit soit obscurci par les images des réalités sensibles. Hein? Si vous allez à la cuisine, là, les réalités sensibles obscurcissent tout. Hein? Si bien qu'il devient difficile de se rappeler pourquoi l'idée d'un être plus parfait que nous doit nécessairement provenir d'un être qui soit effectivement plus parfait. Uniquement une question d'attention. Si vous quittez votre attention, vous vous laissez prendre par là. Ça va plus. Et c'est curieux la question de la purification du cœur et la purification des idées. Hein. Vous avez beaucoup à dire là-dessus. Ça, c'est exactement la purification du cœur, ça. Et la purification des idées, en fait, de la même façon. De fait, il est des hommes dont la lumière naturelle est si faible qu'ils ne voient pas que le principe, toute la perfection qui est objectivement dans une idée, doit être réellement dans quelqu'une de ses causes, est une notion première. Oui, vous voyez bien, j'espère. La notion première, c'est le langage des stoïciens, ça, la notion première. La notion première, c'est ça. Toute la perfection qui est objectivement dans une idée doit être réellement dans quelqu'une de ses causes. On pourrait dire que cette notion première remplace la causalité finale. Je crois que c'est exactement ça. Ça remplace la causalité finale, ce que nous disons être, nous, la causalité finale. C'est cette notion première, toute la perfection qui est objectivement dans une idée doit être réellement dans quelqu'une de ses causes. C'est pourquoi Descartes, dans la troisième méditation, démontre encore l'existé de Dieu d'une autre manière. Étant donné la faiblesse de nos esprits, allons jusqu'au bout. On a déjà serré pas mal le trou, allons un peu plus loin. C'est vraiment ce désir d'aller toujours plus loin, dans cette attention, il faut faire attention, hein, il ne faut pas devenir cartésien. Ça, c'est le stoïcisme intellectuel. Le stoïcisme intellectuel, il n'y a rien de plus dangereux, parce que vous n'en sortirez plus jamais de votre vie. Et le stoïcisme intellectuel, c'est visser les écrous. Hein? Et alors être attentif à l'idée en disant, je ne médite pas assez. Vous voyez, c'est pas du tout la contemplation. Hein? La contemplation, c'est une réceptivité, et là, on visse les écrous. Il y a un danger, parce qu'on est tous un peu cartésiens. On met beaucoup de peine avant de quitter le cartésianisme. On a tous eu comme maître des jésuites. Hein. Je n'oubliez pas ça. Parmi nos grands-pères et nos arrière-grands-pères. Hein. Et alors on reste cartésien, on reste suarésien, on reste dans cette perspective de Descartes. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même très important de saisir ça. Parce que si on ne saisit pas ça, on n'en sortira jamais. Alors la méditation sera l'éclatement, à un moment ou l'autre, de l'intelligence. C'est une voie très dangereuse. C'est pour ça que je la donne, parce que elle est dite. Hein. C'est intéressant de la voir, c'est intéressant d'essayer de voir comment on peut chauffer l'appréhension. Hein. Il arrivait cette idée-là. Donc c'est pourquoi Descartes, dans la troisième méditation, démontre encore l'existence de Dieu d'une autre manière. Plus aisé à concevoir en montrant que l'esprit qui a cette idée ne peut pas exister par soi-même. Cette nouvelle démonstration, Descartes ne la considère pas comme différente de la précédente, mais cependant comme l'expliquant d'une manière plus parfaite et plus achevée. Relevons dans les premières réponses ce texte qui montre très clairement le passage de la première démonstration à cette seconde. Alors, je vous lis ce passage. Parce que, c'est de Descartes, parce que l'idée de Dieu est empreinte de la même manière dans tous les esprits et que nous ne remarquons pas qu'elle nous vienne jamais d'ailleurs que de nous-mêmes, nous supposons qu'elle appartient à la nature de notre intelligence. Et certes, non à tort, mais il y a autre chose que nous omettons et qui doit principalement être considérée et dont dépend toute la force et toute la lumière de cet argument, à savoir que cette faculté d'avoir en soi l'idée de Dieu ne pourrait être en notre intelligence si cette intelligence était seulement un être fini, ens finitum, comme elle l'est en effet, et qu'elle n'est point une cause d'elle-même qui fut Dieu. C'est pourquoi j'ai en outre cherché si je pourrais exister si Dieu n'existait pas. C'est carabiné, ça. Si Dieu n'existait pas, est-ce que vous pouvez exister? Vous voyez, cherchez, vous allez voir. Hein. Cherchez si je pourrais exister, si Dieu n'existait pas. Non pas tant pour apporter une raison différente de la précédente, que pour expliquer la même de manière plus achevée. Donc ce n'est pas une nouvelle argumentation, mais simplement mieux faire comprendre par mode d'impossibilité. Parce que c'est par mode d'impossibilité que la première est bonne. Alors c'est très intéressant ça, parce que ça fait comprendre comment pour lui, le point de vue critique et le point de vue métaphysique ne font qu'un. Par mode d'impossibilité, son attitude critique, eh bien c'est une manière plus achevée. Votre métaphysique n'est achevée que par la critique. Et alors, c'est par la critique que vous montrez le point de vue de l'achèvement. Alors, réfléchissez un peu sur cette manière. Dites-vous bien hein, que ça, croyez bien que ça jouait un rôle extraordinairement important dans notre culture moderne. Et la culture moderne, la modernité, est impossible d'être comprise si on ne voit pas la position de Descartes. C'est pour ça que c'est important de la saisir. Et de la saisir par rapport à Dieu. Hein. Parce que c'est ça qui est important à saisir. C'est par rapport à Dieu. Et de saisir cette position par rapport à Dieu qui nous donne la clé de tout le reste.